Nous.
Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
C'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Ben, tout le monde. Non, c'est pas vrai, je me reprends. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup l'Occident. Ça, c'est chez nous. Un endroit où on est devenu confortable avec le temps. Des pays riches, des pays productifs, des pays prospères font en sorte qu'on s'est bien installé. Et comme ça, d'année en année, le taux de fertilité, le taux de natalité a complètement chuté. Et c'est pas canadien comme problème. Je regarde les trucs que m'a envoyé Vincent Gelozo, là, les courbes d'à peu près toutes les nations. Je dirais progressistes ou des nations modernes sont en chute libre. C'est des chiffres intéressants, puis ça peut amener une jasette intéressante aussi. Il est là, justement, Vincent Gelozo, notre chroniqueur, professeur au George Mason University, économiste senior aussi à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Gelozo, bonjour.
Bonjour.
Faut faire des enfants.
Ben, je sais pas si c'est ça que je dirais, mais...
Qu'est-ce que tu dirais?
Ben, en fait, c'est plus intéressant, puisque le Journal de Montréal a décidé de passer une étude qui était sortie, je pense, au mois de mai, puis finalement a décidé d'en parler, finalement, avec 6 mois de retard. Je sais pas pourquoi, mais le 6 mois de retard. Mais c'est en fait quelque chose qu'on est absolument au courant, mais qui mérite un petit peu plus de détails qui n'étaient pas mentionnés dans ce que le Journal de Montréal a relayé. Et c'est que, oui, toutes les économies riches connaissent une chute de la fécondité, souvent bien que tu es en dessous du seuil de remplacement. Le seuil de remplacement, si on dit 2,1 enfants par femme, dans la plupart des pays développés, ça varie entre 1,2 et 1,6. Donc, définitivement en dessous du seuil de remplacement. Mais ce que peu de gens savent, c'est pas que c'est pas la réduction d'avoir un second ou un troisième enfant. En fait, ce qui est le plus grand moteur de cette baisse-là, c'est la hausse de l'infécondité. C'est une traduction de childlessness, si tu veux. Donc, c'est le nombre de gens qui n'ont pas d'enfants. Et parmi ceux qui en ont, ils les ont très tard. Donc, l'âge du premier enfant est, disons, plus loin dans la vingtaine que dans le passé, ou des fois plus souvent dans le début de la trentaine.
Puis ça, c'est aussi dû à notre confort, puis à notre, tu sais, les gens veulent une carrière, veulent s'établir, veulent... plus tard, on verra les enfants, alors que il fut un temps où, écoute, tu avais un enfant, tu te mariais, c'est automatique, puis c'était comme ça, puis on disait, ben fais-en d'autres, tu sais, puis on continue, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, j'ai juste une expression, mais c'est une transition quand même qu'on a vécue dans un... C'est notre mode de vie, en fait, qui est responsable.
Ben, en fait, il y a deux aspects à ça. Donc, une bonne partie de l'explication, c'est un classique en économie qui fait que tout le monde n'aime pas les économistes quand ils le disent comme ça. Mais avec le développement économique, il y a un dilemme entre la qualité et la quantité des enfants. C'est sûr que les gens n'aiment pas ça qu'on dise qu'il y a une qualité des enfants, mais ce qui veut être dit par qualité, c'est l'aspect de nos enfants maintenant, on met plus d'efforts dans leur éducation, on dépense plus de ressources par enfant, alors que dans le passé, les enfants avaient plus souvent une fonction de programme de retraite pour les parents. Donc, t'en faisais plus que moins, alors qu'aujourd'hui, c'est ça l'argument, quantité, qualité. Donc, il y a une partie de ça qui fait juste... À cause que tu te développes, tu mets plus l'accent sur la qualité. Encore une fois, c'est le terme qui est un peu maladroit que les économistes utilisent, mais que c'est une des parties. Mais il y a d'autres choses qui expliquent ça. Il y a une grande réduction des coûts depuis les années 60, des coûts du contrôle de la fertilité, donc l'accès
Pour pas avoir d'enfants.
Pour pas avoir d'enfants, donc des préservatifs, mais aussi naturellement la pilule contraceptive qui explique une grande partie du changement, notamment parce que, tu peux ne pas en avoir, mais tu peux aussi changer le timing, donc le moment auquel tu vas en avoir, parce que tu as un plus grand contrôle sur ton cycle reproductif. Ça, c'est les explications qui expliquent une bonne partie du déclin et que c'est difficile de dire quelque chose de plus là-dessus. Mais après ça, il y a d'autres choses sur lesquelles je pense qu'on peut faire des commentaires à partir de l'étude que je t'ai envoyée.
Ben, vas-y, comme quoi?
OK. Ben, écoute, je te dirais que la première, il y en a trois que je dirais, c'est que quand on regarde la littérature, le Québec avait été un pionnier là-dedans. Puis je mets pionnier entre avec des air quotes, comme on dit en anglais, ouais. sur les programmes publics, les allocations, les crédits d'impôt. Ils ont l'air d'avoir augmenté un peu la fécondité, mais l'effet est très modeste et il est temporaire. Donc, c'est ça qu'on observe de cette littérature-là. Les programmes et les grandes dépenses publiques qu'il y a eu là-dessus, l'effet est très modeste. Il est encore plus modeste, soit dit en passant, si tu tiens compte du fait que ben, il faut payer plus d'impôts pour payer ces programmes-là. Ouais. Donc, l'effet net est pas mal très négligé. Même chose pour les congés parentaux ou les garderies subventionnées, ils ont peu d'effet. Par contre, les deux choses, puis là, c'est là que moi-même, j'ai contribué à cette littérature-là, les deux choses sur lesquelles que les États ont fait qui étaient contre-productifs, le plus évident, c'est le coût du logement.
Ouais.
Donc, plus tu rends l'accès au logement difficile, l'accès difficile à la propriété, excuse-moi, plus la fécondité va être faible. Et dans l'article que je te mentionne, que je t'ai proposé aujourd'hui, ouais. Ils font une liste de toutes les études, puis la plus intéressante de la gang, elle regarde un changement qu'il y a eu dans les hypothèques aux États-Unis dans les années 30-40, et ils ont regardé quelle proportion du baby boom s'explique par le fait que tu as eu une plus grande facilité d'accès au logement, ils expliquent.
Est-ce qu'il est logique, Vincent? Tu sais, quand tu vis dans un 1,5, tu te dis pas on va avoir 4 enfants. Tu sais, c'est logique, là, aussi.
Non, effectivement.
C'est ça.
Effectivement. Mais en gros, 10 % du baby boom, ça devrait te donner une illustration de ce que tu dis. 10 % du baby boom des années que nos boomers
ouais,
ont grandi. Années
50-60, d'entre ouais. eux.
10 % d'entre eux sont nés grâce, s'ils sont américains, 10 % d'entre eux sont nés grâce à des programmes qui ont rendu le logement plus facile d'accès. Donc, les politiques de logement sont très importantes et en fait, c'est elles qui expliquent une partie du déclin et particulièrement au Canada, parce qu'au Canada, on est un petit peu plus extrême dans la folie réglementaire qui rend difficile d'augmenter l'offre de logement. Donc, une partie du déclin, ce n'est pas les deux forces naturelles que je t'ai mentionnées au début,
ouais.
mais plutôt les Valérie Plante, les Bruno Marchand, les Olivia Chow, mais aussi Denis Coderre.
Les réglementaires.
Les réglementeurs, j'aime bien ce porte-manteau que tu viens d'utiliser. C'est l'effet qu'ils ont eu. Ils ont contribué à réduire la fertilité.
Puis c'est fou parce que c'est la première fois que je l'entends, celle-là. T'sais, on a jasé avec des médecins, on a jasé avec des sociologues sur justement le pourquoi du comment. Et ça fait plein de sens, parce que pas de logement, pas de futur. Là. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai des enfants, puis j'imagine qu'on peut poursuivre cette discussion-là, là, parce que moi, mes enfants, ils savent pas trop. Là. Tu sais, acheter une maison, je leur parle de ça, puis ils disent, hey, je veux dire, les maisons ont tous augmenté là, dans la région de Québec et ailleurs. Là. Je pense que c'est généralisé. Là. La valeur des maisons est rendue complètement explosée. Tu sais, les gens se disent, écoute, là, quand est-ce que je vais pouvoir investir, moi, 500 000 piastres pour avoir une maison, somme toute, normale? Tu sais, c'est devenu un enjeu majeur et je te suis à 100 %. Moi, je vivais dans un 4,5 sur le plateau Mont-Royal avec ma blonde le jour où on a dit on veut des enfants. C'était hors de question qu'on fasse ça là. Tu sais, c'était comme ça se peut pas. Là. On pourra pas sortir dehors avec eux autres. On est sur le trottoir, sur le boulevard Saint-Laurent. Je trouve que tout ça fait du sens. Puis c'est la première fois que je l'entendais. Bravo, un étoile pour toi.
Ben merci beaucoup. J'apprécie. Mais je vais rajouter quelque chose. Premièrement, quand tu regardes. Puis avant l'entrevue, j'ai eu à essayer de préparer les chiffres qui étaient dans cette étude-là pour les rendre comparables, donc garder toutes les proportions égales. Et l'effet d'une déréglementation sur le logement, s'il est capable de réduire les prix du logement de 10 % relativement aux revenus, ça a plus d'effet que la panoplie de programmes qu'on a développés au Québec, parce que wow. la littérature utilise les programmes québécois, donc le RQAP,
les CPE,
les CPE, les allocations familiales. Tu prends la somme de ces programmes-là, tu as juste besoin d'une baisse de 10 % du wow. prix des logements relativement aux revenus pour avoir le même effet que toutes ces politiques-là. Puis c'est pas une grosse baisse, là, le 10%. Mais en fait, c'est 9,16 que j'ai estimé, j'arrondis vers le haut, parce que c'est quand même du ballpark, là, ici, qui est fait. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur aux gens. C'est très important, l'effet du logement, relativement aux autres choses. Puis je vais en ajouter une de plus. Avec une de mes étudiantes de doc, puis s'il y a des gens qui cherchent à, qui écoutent puis qui essayent d'embaucher des étudiants de doctorat qui veulent pour être professeurs, une étudiante et moi, Anna Claire, on a regardé l'effet des réglementations aux États-Unis sur les services de garde. Donc, qu'est-ce qui augmente les coûts pour des garderies d'ouvrir et est-ce que ça explique une partie de l'écart entre ce que les femmes disent, les femmes d'âge de reproduction, combien d'enfants elles disent vouloir et combien elles en ont vraiment. Donc, le gap entre le désiré et la réalité. Et ce qu'on réalise, c'est que à peu près 10% de l'écart entre ce que les gens veulent et ce qu'ils réussissent à faire, c'est expliqué par les différences de réglementation entre les États aux États-Unis, de telle sorte que si tu avais... une déréglementation où l'État le plus réglementé devenait l'État le moins réglementé, tu pourrais augmenter le nombre d'enfants par tête aux États-Unis par à peu près 4 %. Donc, c'est 0,03 enfants de plus, mais sur un chiffre qui doit être à 2,1, c'est pas négligeable. Mais c'est surtout pour un truc aussi petit que juste la réglementation sur les services de garde, mais c'est important parce que c'est un des coûts importants associés aux enfants. Et c'est une des choses que les gouvernements ont rendues plus dispendieuses en rendant l'entrepreneuriat dans les services de garde plus coûteux, de la même manière que les réglementations sur la construction, sur le zonage, sur les nouveaux bâtiments, sur les nouveaux logements, ont augmenté le coût du logement.
T'es en train de me dire que toutes les réglementations, bref, là, at large, là, sont un frein à la natalité. C'est quand même capoté, là.
Mais ça revient à ce que je dis littéralement chaque semaine. J'ai l'impression d'être un vieux disque brisé. Mais l'État prétend essayer, avec plein de programmes pro-fertilité, de régler le problème de la fertilité qui décline, alors qu'il est lui-même la pathologie du problème. C'est lui qui a créé le problème initialement en ayant des politiques publiques qui augmentent deux des plus grandes composantes des coûts associés à l'éducation des enfants, c'est-à-dire les services de garde en jeune âge et le coût du logement. Donc, une politique de first do no harm comme les médecins serait nettement supérieure lorsque c'est le temps d'en parler. Et là, j'en ai juste choisi deux. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait jaser sur comment le code fiscal est conçu, plein d'autres choses comme ça. Mais honnête, je pense que c'est le temps qu'on le dise. Les gens qui maintenant font une sorte de petite syncope à propos du taux de fécondité au Québec qui est trop bas, puis qui veulent maintenant plus de programmes gouvernementaux, rappelez-vous qu'une partie du problème que vous décrivez, c'est parce que d'autres personnes comme vous, il y a 20 ans, ont demandé d'autres types de programmes gouvernementaux pour gérer d'autres problèmes qui n'en étaient pas vraiment.
Donc, puis je sais que tu n'es pas raccord tout à fait avec les politiques économiques de Donald Trump, mais c'est parce que tantôt, c'est drôle, on jasait une toute autre discussion avec Catherine Loubier, puis je t'en parlais pendant la pause. Il a présenté sa stratégie de sécurité nationale et il parle justement à un moment donné du besoin de faire des enfants, des familles fortes. Et lui a lié ça à ça. Je sais que peut-être que tu n'aimeras pas ça, mais je pense qu'il poussait dans ton sens, c'est-à-dire baisser la réglementation, baisser les impôts, laisser les familles fleurir. C'est un peu ça quand même, là.
Ouais, ben écoute...
Ça va te faire mal, mais c'est ça.
Ben, une horloge brisée peut avoir raison deux fois par jour, mais aussi la question, c'est est-ce que cette horloge brisée-là... va faire ce qu'elle dit qu'elle va faire.
Ah, ben là, ça, ça c'est un politicien. Ça, je sais pas, là. Ça,
ben, mais ici...
Mais au moins, le plan fait du sens, selon notre discussion, là.
Ben, écoute, pense-y comme ça. Si tu peux faire des choses qui augmentent l'offre de services qui sont liés à certains aspects qui sont importants pour l'éducation des enfants, les services de garde ou le logement, ben, tu vas réduire le coût d'avoir des enfants. Tous les autres programmes que les gens mentionnent comme un régime d'assurance parentale, l'effet que ça a, oui, ça a un effet pour les parents, mais il y a aussi un effet de plus d'impôts qui, de l'autre côté, service. Peut avoir une sorte d'effet, un effet qui mitige une partie des bénéfices sur la fertilité. C'est pour ça que tous ces gros programmes-là que les gens ont l'air de s'exciter de gauche à droite au Québec, parce qu'il ne faut pas oublier que la droite aime ces types de programmes-là, ces types de programmes-là ont des effets, oui, mais ils sont difficiles à dire qu'ils sont importants. Parfois même, au net, quand tu tiens compte du coût fiscal qui vient avec, ben ils peuvent être négatifs même, donc ils sont contre-productifs. Soyons généreux, disons que c'est juste un petit positif, mais ça coûte très cher comme petit positif relativement à des politiques beaucoup plus cheap qui sont celles que je mentionne, de réduire la réglementation sur les services de garde, de déréglementer le logement, d'arrêter les maires. Et les maires, je dis pas les maires, maman, je dis les maires avec un A-I.
Oui, les maires.
Les maires et mairesses des grandes villes, d'arrêter de les laisser autant réglementer l'offre de logement, parce que c'est eux qui sont, en toute fin pratique, une grande partie responsable d'une bonne partie du déclin de la fertilité qui est hors des causes usuelles, celle du développement économique, mais aussi de la réduction des coûts des contraceptifs.
Très bon sujet. Une solution si proche, mais si loin en même temps, parce qu'on comprendra que les gouvernements vont pas se faire harakiri, hein. Ça va se défendre, ces petites bêtes-là. Merci beaucoup, Vincent. Super sujet. Merci.
Toujours un plaisir.
Salut, bye. Vincent Gelozo, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Wow! Chiffres à l'appui, m'envoyer les chiffres, les graphiques. J'avais jamais pensé à ce bout-là.
Non, moi non plus.
Mais c'est, en même temps, ça fait du sens quand tu y penses. Facilité d'avoir accès à des logements à famille.
Ah, c'est sûr que c'est dur de prévoir l'avenir si. Mais, tu sais, ouais.
Bonne chance aux coureurs parce que ça n'arrivera pas. Là. C'est des beaux fantasmes avec Vincent, j'aime ça. 14h33, on revient.
Ouellette. Non. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.